quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage.
Dernier baiser, les chats sauvages en 1962. Aujourd'hui, nous étions sur la plage, seulement en chanson, car c'était Jean-Louis en studio et Virginie à la technique. Bon séjour à vous, sous réserve d'avoir noté ce qui a été distillé pendant l'heure passée. Et n'oubliez pas la crème, les lunettes, le parasol, pourquoi pas. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Il s'en passe de belle à Germignac. Perdu dans le vignoble de la Grande Champagne, ce village assoupi aurait pu à jamais s'endormir dans les effluves du cognac. Grâce à ce curieux véhicule, pourtant, le petit bourg charentais deviendra peut-être un jour aussi fameux que Cap Kennedy.
Ticket B.
En vrac. L'émission désordonnée.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en vrac pour ce mois de juillet 2026. Une émission en deux parties. En effet, en deuxième partie, nous partirons sur les terres d'Angoulême puisque je suis allée au festival Musique Métis les 5 et 6 juin dernier. J'ai eu le plaisir de rencontrer le groupe et le groupe L'Antidote que je venais voir absolument puisque j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour leur album sorti en 2020-2025. Tout au long de cette émission, vous entendrez d'ailleurs des extraits de cet album. Mais en première partie, nous allons non pas en Charente mais en Charente-Maritime. J'avais rencontré il y a un an à peu près, Carole Sionnet pour son exposition Vivante qui avait été présentée à l'Académie du Climat à Paris l'été dernier. Cette année, nous la retrouvons après une étape également sur Paris. Elle expose tout l'été à l'Hôtel de Ville de La Rochelle une exposition qui s'appelle Invisible. Et comme j'adore son travail, je vous propose d'écouter un entretien avec Carole Sionnet qui nous explique tout sur cette exposition Invisible et sur ses prochains projets. On commence tout de suite avec Carole Sionnet au micro de D4B pour son expo Invisible qui aura lieu à La Rochelle jusqu'au 29 août prochain. Bonjour Carole Sionnet.
Bonjour.
Je te retrouve aujourd'hui presque un an après notre premier rendez-vous l'an dernier avant ton exposition parisienne. Cet été, tu proposes une exposition sur La Rochelle, une nouvelle exposition qui s'appelle Invisible. Donc parle-nous un petit peu de cette exposition et puis du chemin qu'elle a eu pour nous arriver jusqu'à La Rochelle.
Oui, tout à fait. Donc l'exposition a d'abord été présentée en mai à Paris, à la Villa des Arts, aux anciens ateliers des impressionnistes, et qui est un endroit où il y a encore des artistes qui y logent, et il y a une galerie qui donc a pu accueillir l'exposition Invisible, qui est donc actuellement visible maintenant de juin jusqu'au 29 août à La Rochelle, à l'Hôtel de Ville.
Cette expo, après les mares, les terrains laissés un peu en friche pour observer la biodiversité, là tu es partie à l'océan.
Exactement, donc à nouveau c'est un projet qui mêle art, science, protection de la nature et accessibilité. Et donc là, spécifiquement, protection des océans. Le projet a commencé en fait donc en 2025, où j'étais lauréate parmi 600 candidatures européennes, et donc seule française, pour avoir un soutien de l'Union européenne via le programme Tidal Arts, donc pour ce projet Invisible. En fait, le projet Invisible, par mon approche artistique, je vais mettre en lumière une pollution invisible et ses impacts. Et donc, mon travail, j'ai développé ce travail en explorant comment rendre visible l'invisible. Donc, c'est ça que j'ai voulu mettre en place. Et c'est vers ça que j'ai pu développer ma démarche artistique, puisque, contrairement à d'autres travaux, effectivement, la mare et puis Sphère pour l'exposition Vivante, sur lesquelles on avait pu échanger, reposaient sur le réel et le visible. Là, on est sur une forme très différente, et donc c'était intéressant pour moi de trouver une manière plastique de pouvoir exprimer et représenter cette notion de pollution invisible et également d'espèces qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Donc c'était à peu près toute l'année de travail pour cette exposition.
Exactement, donc c'est un peu moins d'un an, donc ça a été très intense. Puisqu'il y avait l'écriture du projet. Je travaille aussi avec des scientifiques et des marins qui vivent en Allemagne et au Brésil. Donc on a beaucoup travaillé à distance. Et puis il y a une scientifique, Joséphine Schaumburg, qui a pu venir travailler avec moi à La Rochelle pendant une semaine. Et je travaille également avec l'université de La Rochelle. Voilà, donc ça a été effectivement beaucoup de travail. Et puis après, surtout en fonction des recherches autour de cette pollution spécifique et des recherches scientifiques qui permettent d'identifier des espèces et donc les impacts sur les espèces grâce à une technique où ils vont pouvoir, ils et elles vont pouvoir identifier les espèces sans les voir à partir de prélèvements d'eau. Donc voilà, ça c'était intéressant aussi de travailler avec eux pour aller profondément dans un sujet plutôt que de faire un travail général sur les pollutions et les impacts, mais vraiment avoir des données scientifiques qui pouvaient appuyer ce travail, même si pour moi j'ai choisi vraiment d'avoir une forme très marquée et très différenciée d'une représentation comme si ça pouvait être analytique presque de leur travail et une transcription plus scientifique justement, mais là je suis vraiment partie sur des formes assez marquées où j'ai travaillé vraiment sur les limites de la perception et les seuils du visible. C'est ça qui m'intéressait de développer.
C'est une passerelle entre les sciences ou une certaine philosophie et l'art, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on peut avoir des échanges approfondis entre les scientifiques et avec moi, par exemple, mais on reste aussi chacun et chacune à notre place. C'est-à-dire que voilà, la forme, elle devient complètement indépendante de leur travail et on a pu intervenir dans des conférences mutualisées, mais effectivement, on a des démarches différentes, même s'il y a des croisements. Et donc, par exemple, moi, j'ai travaillé, comme je disais, sur comment rendre visible l'invisible, et j'avais envie d'avoir des formes très marquées. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur les dégradés de couleurs, les jeux de textures, les variations de lumière aussi, aux déplacements qui sont visibles et qui donnent corps, en fait, aux nappes qui vont être invisibles. Puisque en fait les personnes aussi travaillent sur une pollution qui est méconnue et qui est invisible donc par rapport par exemple aux marées noires et qui traite des eaux huileuses, des rejets huileux d'eau de cale pour des bateaux de moins de 40 mètres et pour lequel les scientifiques avec qui je travaille et marins ont trouvé un équipement qui permet de réduire ces pollutions. Et donc moi, avec ce travail, j'essaye de donner corps à ces nappes huileuses invisibles. Et c'est pour ça que, comme pour l'exposition vivante, j'utilise à nouveau une technique novatrice qui permet de faire des tirages mats avec des zones de surbrillance. Et donc voilà, j'explore vraiment cette technique-là avec quand même un résultat qui, pour moi, m'intéressait de rendre extrêmement sobre avec notamment des images avec des tons blancs sur blanc et d'autres noirs sur noir, aussi pour matérialiser cette invisibilité et ces invisibilités multiples.
Comment tu travailles pour ce genre de procédé? Ça doit être très technique, quoi, pour avoir plusieurs formes différentes sur une photo.
Il y a plusieurs étapes. Il y a évidemment l'écriture même du projet et de la forme plastique que ça va prendre, où là, j'essaye de préparer ce que je veux représenter et ce que je veux ne pas représenter. Et ensuite, il y a vraiment donc un travail de prise de vue. Ça, cette étape, elle est en amont. Et après, effectivement, il y a comment penser ces zones invisibles qui vont venir s'imprégner sur la photo. Et donc là, il y a effectivement un travail de post-production qui est assez important, où là, je vais définir chaque zone précisément qui va utiliser ces reflets qui vont être mise en apparence par la lumière réfléchie au gré de nos déplacements, en fait. Donc voilà, il y a un travail de post-production. Et là, j'ai expérimenté pas mal de choses par rapport à ça. Parce que, donc, comme je disais, j'ai fait une technique blanc sur blanc avec différents degrés de blanc et idem pour le noir. Et également des prises de vue plein cadre d'océan. Avec un jeu à nouveau de lumière allant de l'extrême surexposition avec trop de lumière et l'absence de lumière avec justement des passages différents qui matérialisent aussi l'océan qu'on peut percevoir d'une manière tout à fait normale entre guillemets et pourtant de manière sous-jacente on a des impacts et des choses qu'on ne peut pas voir.
Les prises de vue, tu les as faites sur l'océan Atlantique, dans la région charentaise ?
Oui, tout à fait. Toutes les photographies ont été prises aux alentours et à La Rochelle, notamment au port de plaisance de La Rochelle, à partir des pontons. Et également, j'ai fait des sorties en mer avec les chercheurs et chercheuses de l'Université de La Rochelle, notamment Hélène Thomas. Et donc, on est parti comme ça en mer. J'ai fait beaucoup de prises de vue en mer. Et c'est là que j'ai pu aussi les accompagner pendant des prélèvements d'eau où à partir de 2 litres d'eau, les scientifiques arrivent à analyser ces prélèvements. Et donc, à partir de ces prélèvements, ils arrivent à voir quels sont les espèces de poissons ou autres espèces vivantes qui sont passées dans ces eaux dans les 48 heures précédant le prélèvement. Donc ça, c'était assez magique aussi pour moi de découvrir ça. Voilà, moi j'utilise pas des téléobjectifs par exemple, j'utilise toujours une technique qui me permet d'être proche de ce que je vais photographier, c'est-à-dire des focales qui sont proches de la vision que nous avons, la vision humaine, pour prendre des photos, pour avoir justement une proximité avec les sujets.
Et là, le labo photo, c'est un labo avec qui tu avais l'habitude de travailler ?
Oui, exactement. Ça fait quelques années que je travaille avec eux. Ce type de tirage, en tout cas, pour le moment, ils me disent qu'une seule machine en France est disponible à ce jour, utilisant cette technique de vernis qui est fixée sur les tirages. On connaît cette technique plutôt sur les publications pour des couvertures de livres, parfois. Là, c'est une technique qui ressemble, mais qui est encore très peu développée. Et j'avais déjà fait une partie de l'exposition vivante l'année dernière à l'Académie du Climat à Paris, utilisant cette technique. Voilà, en fait, pour le moment, donc c'est négatif plus. Le laboratoire photographique me disait que très peu de photographes s'étaient appropriés cette technique. Il y a quelques essais qui sont faits, mais très peu pas d'exposition, à part donc celle que j'avais présentée à l'Académie du Climat, où il y avait à peu près la moitié des œuvres qui utilisaient cette technique. Et là, celle que je présente, que j'ai présentée à la Villa des Arts et que je présente maintenant à La Rochelle, toutes les photographies utilisent ce procédé.
Comme quoi, un travail artistique photo, comme tu le fais, une artiste photographe comme toi, c'est pas juste prendre des prises de vue. C'est dès le départ faire l'écriture de ce qu'on veut projeter via les photos, c'est faire les prises de vue aussi, mais c'est derrière organiser le tirage pour qu'il soit fidèle à ce qu'on voudrait. C'est un travail hyper complet en fait.
Oui, tout à fait. C'est ça qui me passionne aussi, c'est que donc l'écriture, elle se fait de manière continue, quoi. À chaque étape de recherche. Le projet va évoluer à partir des prises de vue, à partir des ressources, des échanges. Là, je vais pouvoir vraiment affiner la forme que je veux donner au projet et qui se construit en même temps que j'avance. Et après, effectivement, il y a aussi le travail de tirage qui est très important. Et donc, à chaque fois, le choix des images qui va définir la forme, les formats, les présentations, l'encadrement, la scénographie, tout ça, c'est des étapes qu'on ne voit pas, mais qui sont très longues et très importantes et qui vont définir l'exposition finale. C'est ça aussi qui me passionne dans ce travail, c'est-à-dire il y a des étapes où je vais rencontrer beaucoup de personnes. Ensuite, il y a des étapes aussi où je vais travailler vraiment très seule dans mon travail. Et puis après, parfois, il y a des choses où je vais beaucoup écrire et d'autres où je vais beaucoup travailler aussi sur les maquettes, sur la scénographie, où là, c'est vraiment concret pour mettre en place les dispositifs. Et donc là, c'est toute une partie Aussi bricolage, installation de l'expo. Et voilà. Puis après, il y a aussi tout le travail de partenariat, de mise en place des projets, puisque je travaille avec l'association culturelle, artistique, pédagogique, environnementale, la CAP. Mais je fais aussi beaucoup de démarches pour trouver des partenariats et pouvoir mettre en place des projets comme ça. Donc, c'est aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de travail divers. Mais c'est aussi ça qui est riche dans ce travail.
Thank you.
Et c'était une petite pause musicale signée L'Antidote. Vous êtes bien de retour sur D4B pour l'émission En Vrac. On retrouve Carole Sionnet pour son expo Invisible, qui est visible jusqu'au 29 août à l'Hôtel de Ville de La Rochelle.
Comme d'habitude, enfin comme dans tous tes projets, il me semble que tu l'as proposé en présentation avec doublé en langage des signes.
Alors oui, en langue des signes. Je me permets de le dire parce que beaucoup de gens disent langage des signes. C'est vraiment langue des signes puisque c'est une langue à part entière, contrairement à un langage qui serait plutôt apparenté à un code. Donc là, il y a vraiment une syntaxe, une grammaire. Et donc effectivement, pendant le vernissage, j'ai fait un discours en français et ensuite en langue des signes, en alternance comme ça. Donc il y avait beaucoup de monde à ce vernissage et donc volontairement, puisque habituellement les discours sont faits en français et parfois il y a une interprète ou un interprète qui vient traduire, là j'avais envie que tous les publics sourds et entendants soient dans la même situation, c'est-à-dire en alternance d'une langue à l'autre et en attente chacun et chacune d'une langue à l'autre. C'est-à-dire souvent, c'est souvent les sourds qui sont mis dans cette situation d'attendre d'avoir la traduction ou d'attendre d'avoir un accès. Et là, c'était aussi les entendants qui attendaient d'avoir à nouveau le français pour comprendre le propos.
Tu fais d'autres rencontres comme ça avec une présentation en langue des signes pendant l'été ?
Oui, ben, je peux dire oui, il y a des rencontres. Il y a eu des rencontres, par exemple, à Paris, des rencontres. J'ai fait des rencontres, des visites guidées en français, d'autres en langue des signes uniquement. Et voilà. Et puis aussi des rencontres avec des scientifiques qui ont pu faire des rencontres. Donc c'est assez riche. Et pour revenir à la question des accès pluriels, donc ça, les accessibilités constituent vraiment une dimension centrale dans ma démarche depuis très longtemps. Et dans un aspect où cette question est vraiment inhérente à l'œuvre, c'est-à-dire c'est pas comme un ajout, mais c'est vraiment lié à la création artistique même. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà j'ai étudié la langue des signes, donc je peux échanger directement avec les personnes sans interprète. Et au-delà de ça, vraiment, je pense les créations que je propose en pensant ces accessibilités diverses au cœur de mon geste artistique. Et là, particulièrement dans cette exposition, j'ai encore ouvert à d'autres publics ce travail, puisque j'ai fait un travail autour du braille et également autour d'images-reliefs.
Donc les gens peuvent toucher, en fait.
Alors, justement, toutes les personnes ne peuvent pas toucher les mêmes choses. Ça, j'avais envie justement que chaque personne puisse expérimenter l'œuvre selon leur modalité d'accès, que ce soit sensoriel, linguistique ou culturel. Et donc, ça m'intéressait de rendre en fait que certaines œuvres deviennent perceptibles pour certaines personnes et d'autres demeurent justement invisibles pour d'autres. Et donc, volontairement, j'ai travaillé sur l'inclusion et aussi l'exclusion qui vont être réfléchies, pensées pour aussi équilibrer les expériences et expérimenter des manières différentes d'avoir accès à l'œuvre et justement développer ces invisibilités qui sont multiples et qui font écho au sujet même. Parce que en fait, pour moi, c'est aussi reconnaître en fait la singularité de chacun et de chacune, et de faire de toutes ces pluralités une condition essentielle de l'expérience collective. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était aussi c'est dans cette optique-là que j'avais envie de permettre d'avoir différentes modalités d'accès à l'exposition et différentes rencontres. Donc, par exemple, au vernissage, il y avait des personnes qui pouvaient lire le braille et d'autres qui ne pouvaient pas parce que je n'ai pas mis de traduction. Il y a deux éléments qui sont dans l'exposition qui sont uniquement en braille, dont une qui est vraiment présentée comme une photographie blanc sur blanc avec une ligne d'horizon qui peut faire écho encore à l'horizon de l'océan avec un texte qui n'est pas traduit et qui est à l'image des autres photographies présentes avec des formats similaires, un encadrement similaire. Donc voilà, ça m'intéressait aussi de proposer des expérimentations de cette manière et aussi des images-reliefs. Donc là, par exemple, les images-reliefs sont... Il n'est pas autorisé aux personnes voyantes de toucher ces images-reliefs. En revanche, quand on peut lire le braille, il est indiqué que les personnes non-voyantes et malvoyantes pouvaient avoir accès à ces œuvres et les toucher. J'ai aussi, par contre, quand même réservé un espace où il y a deux images-reliefs qui sont visibles. Alors, dans l'exposition à Paris, il y avait une salle entière où il y avait de nombreuses images-reliefs dans lesquelles tout le monde pouvait déambuler dans le noir et avoir un accès tactile aux œuvres. Et ici, on aperçoit par une lucarne ce dispositif et on peut avoir accès à deux images-reliefs en tactile pour tout le monde et les autres sont uniquement accessibles aux personnes donc, qui ont eu l'information en braille.
Quelles sont les modalités pratiques pour venir voir cette exposition à La Rochelle ? C'est où ? De quel jour d'ouverture ? Quels horaires ?
Alors, donc, c'est jusqu'au 29 août et l'exposition est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h tous les jours. Et ensuite, le samedi, de 10h à 18h. Et l'exposition est fermée donc les dimanches et jours fériés. Et le lieu donc, se situe à l'hôtel de ville, le bel hôtel de ville très ancien qui fait partie des mairies en France, toujours en activité depuis près de 500 ans, je crois. Et ça se trouve dans la salle Renaissance, donc vraiment au rez-de-chaussée, sur le côté gauche, dans la cour intérieure.
C'est gratuit ?
Oui, tout à fait, c'est gratuit, ouvert à toutes et tous.
Et on aura peut-être la possibilité de te rencontrer quelquefois sur des moments d'échange ?
Exactement, donc là, il va y en avoir un le 27 juin, en langue des signes française. Et ensuite, en août, il va y avoir une visite guidée en français et ce sera le 22 août, un samedi également à 14h. Je ferai aussi également une visite uniquement en tactile, mais là encore pour les personnes uniquement qui lisent le braille et qui auront accès à toutes les images-reliefs. On est souvent justement dans une société qui prône le validisme, justement, comme si il y avait une norme et qu'il fallait absolument être dans cette norme, comme si la société devait imposer ces questions-là, alors que le monde est constitué de singularités et que, effectivement, par exemple, la langue des signes est vraiment une richesse. Et les sourds revendiquent cette culture et cette langue. Je voulais juste préciser concernant les accessibilités. Donc, ce n'est pas non plus du tout faire des visites ghettoisées avec que des groupes spécifiques. D'ailleurs, par exemple, récemment, il y a eu une visite uniquement en langue des signes et il y a des personnes entendantes qui se sont retrouvées là. Et je pensais qu'elles allaient partir, mais finalement, elles sont restées pendant toute la durée de la visite. Donc, c'était aussi chaleureux. Et donc, tout le monde est bienvenu à ces visites, même si la langue n'est pas accessible à tout le monde à chaque fois. Mais par contre, pendant le vernissage, c'est aussi très, très, très mélangé et très riche, puisque là, par exemple, pendant le vernissage, les personnes qui n'avaient... J'ai dit à personne les significations de... des textes en braille et donc les gens étaient obligés de demander aux personnes qui lisaient le braille d'avoir de l'aide. Il y avait beaucoup d'échanges, c'était intéressant aussi d'avoir des rencontres riches. Ce qui m'intéressait aussi de révéler par ces formes diverses plastiques, c'était aussi de faire écho justement à différents types d'invisibilité, c'est-à-dire les solutions, des pollutions, des espèces présentes et essentielles, mais qui sont invisibles, et aussi les invisibilités des personnes elles-mêmes et nos manières de percevoir les choses, chacun et chacune, de manière différente. Notamment, comme je disais tout à l'heure aussi, en tactile, où en visuel, chacun et chacune s'appuie sur, ses modalités spécifiques, et on peut aussi être dans différents modes de perception de ces invisibilités. Et puis, bien sûr, le projet lui-même, c'est aussi de dire que, qu'on est toutes et tous liés et dépendants les uns et les unes des autres, et des humains et non-humains, et bien sûr des océans.
Et tes projets alors ? Parce que là, est-ce que tu as déjà des choses qui se précisent pour après cette expo ?
Donc là, je vais encore travailler sur des projets art, sciences, protection de la nature et accessibilité. Hein. Ça fait des années que je monte des projets qui font écho à ça. Et je vais être invitée par Inspiri, donc un groupe aussi de chercheurs qui mêlent art et sciences. Au niveau européen, et donc je vais être invitée à participer à un colloque qui va se situer à Bilbao, au musée Guggenheim, où on va passer plusieurs jours à échanger justement sur, sur la recherche et comment aussi réfléchir à ces questions avec aussi des marins, des scientifiques et des citoyens pour s'interroger aussi sur toutes ces questions, quelles formes peuvent découdre et comment et par qui on déploie ces réflexions. Donc ça, ça va être bientôt, ça va être en octobre. Et avant, il va y avoir aussi, je vais avoir une intervention à la médiathèque Michel Crépeau dans le cadre de Art et Transition, qui est organisé par l'agglomération de La Rochelle. Et ça, ça va se passer le 29 septembre en soirée.
La dernière fois, tu m'avais parlé de projet sur Bordeaux. C'était une boîte à trésors, hein, quelque chose comme ça.
Oui, exactement. Alors malheureusement, dans les projets artistiques, j'en écris beaucoup. Je passe aussi beaucoup de temps à imaginer des projets passionnant, qui me passionne toujours, hein, comme celui comme Invisible et comme les projets précédents. Et par contre, sur les projets qui sont écrits, ben, y en a aussi malheureusement certains qui n'aboutissent pas, mais qui laissent aussi la place à d'autres.
La dernière fois, on avait un petit peu discuté du statut d'auteur, créateur, artiste, et qu'il y aurait un jour des moyens d'évoluer vers des statuts un peu plus sécurisants d'un point de vue financier. Pour vous, les artistes qui avaient parfois besoin de temps pour créer, et ça ne se monnaie pas ce temps-là.
Oui, tout à fait. On a un statut, donc le statut d'artiste, auteur et autrice est vraiment un statut qui pour le moment ne protège pas les personnes justement concernées. Et en fait, surtout, on ne reconnaît pas notre travail. C'est-à-dire que il y a avec ce statut une reconnaissance des œuvres plastiques, des œuvres photographiques qui vont être reconnues comme ayant une valeur marchande. C'est-à-dire là, on reconnaît la valeur de l'œuvre, mais on ne reconnaît pas du tout les personnes qui créent ces œuvres comme des travailleurs et des travailleuses. Ça implique une vision plutôt archaïque de l'artiste qui serait comme ça, soudain, qui ne travaillerait pas, mais qui d'un coup aurait un surgissement d'une œuvre comme ça qui apparaîtrait. Donc voilà, on est encore dans des choses comme ça, alors que comme on le disait tout à l'heure, c'est énormément de travail de construire un projet de A à Z, avec beaucoup d'échanges de différentes manières, beaucoup d'écriture, de travail sur l'objet lui-même, les prises de vue, le tri des images, enfin tout ce qu'on a détaillé aussi tout à l'heure, quoi. Et donc ça, c'est beaucoup de temps de préparation pour après avoir une exposition, ben là, en l'occurrence, qui va durer 3 mois à La Rochelle et qui était présente aussi à Paris en mai. Mais avant tout ça, il y a des mois et des mois de travail intense qui, elles, ne sont niées quoi, dans le statut même. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. La BUS fait un travail exceptionnel sur ça, avec des solutions qui sont même plutôt simples, hein, d'augmentation notamment de la participation des diffuseurs qui est très minime, hein, pour le moment, qui a 1,1% des montants attribués pour la représentation des œuvres. Alors que la plupart des métiers, les pourcentages sont parfois jusqu'à 50%, et donc ça donne des droits aux personnes qui travaillent directement. Et là, la BUSE, par une augmentation très très faible, hein, loin des 50%, l'équilibre du travail pourrait être reconnu. Donc c'est vraiment à développer et à s'intéresser à ce groupe de travail.
Merci à toi, Carole. Et à bientôt sur D4B, peut-être.
Oui. Merci beaucoup, Muriel. À bientôt.
Et c'était Carole Chionnet pour son exposition Invisible. Ne manquez pas cette exposition qui se tient jusqu'au 29 août à l'Hôtel de Ville de La Rochelle. Merci encore, Carole, pour cet entretien. Et on fait tout de suite une nouvelle pause avec le groupe L'Antidote, que j'ai eu le plaisir de retrouver au Festival Musique Métisse à Angoulême. J'ai donc pu m'entretenir avec Bijan Chimirani, un des trois musiciens du groupe. On se retrouve juste après. Thank you. Vous êtes de retour sur D4B dans l'émission En Vrac et cette deuxième partie qui s'est exportée à Angoulême sur le festival Musique Métis où j'ai pu retrouver le groupe L'Antidote. L'Antidote, j'avais adoré leur album sorti en 2025. L'Antidote, c'est un groupe composé de trois musiciens, Reddy Assa, Rami Khalife et Bijan Chimirani. C'est donc avec grand plaisir que j'ai pu interviewer Bijan Chimirani au micro de D4B. C'était sur le festival Musique Métis en juin dernier. Merci à toutes les personnes du festival, notamment Pauline, Simon et les bénévoles en charge de l'accueil presse et des artistes qui m'ont vraiment facilité l'accès. Donc merci à vous tous. On retrouve tout de suite Bijan Chimirani pour l'Antidote.
Bonjour Bijan.
Enchantée.
Après votre set de l'Antidote, je vous retrouve. Moi, pour tout vous dire, en 2025, je suis tombée amoureuse de votre disque.
Ça fait plaisir.
Cet album, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez eu envie de le faire?
C'est une longue histoire. C'est parti en fait de l'idée d'un producteur qui milanais qui s'appelle Titi Santini, qui connaissait bien Reddy, qui connaissait bien Rami, qui me connaissait également et qui a eu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'intuition de nous réunir. On s'est retrouvés dans un studio à Sienne, dans un endroit magnifique. On s'est rencontrés, c'est ça qui est peu commun, c'est de se rencontrer directement en studio, mais sans obligation de résultat. C'était vraiment, et voilà, on était tous les trois dans un studio, on s'est rencontrés musicalement. Et en fait, vraiment à la fin de cette session-là, le Covid est arrivé. Et ça a tout mis évidemment en stand-by, comme tout le monde. Et on est tous rentrés chez nous. Moi, personnellement, je pensais que, comme ça a duré cette période un peu de galère covidienne. Et en fait, quand la vie a redémarré, il nous a rappelé et on a continué. Et cette fois-ci, on allait dans les Pouilles, dans le Salento, dans un studio au milieu des vignes. Et on a pris le temps de continuer ce travail-là. On ne s'est pas envoyé de la musique au préalable, on s'est parti de l'écoute. De l'écoute et de la confiance qu'on se faisait mutuellement. On a dialogué avec nos instruments, nos sons, et on a commencé comme ça.
Et après, beaucoup de concerts?
Après, ben pas mal, parce que le disque est sorti il y a un an à peu près. Hein. Donc on a déjà une cinquantaine de concerts, ce qui est très chouette pour un projet relativement neuf.
Oui, puis il faut arriver à vous caler, parce que vous avez chacun des projets perso à côté, j'imagine.
Alors il y a ça, il y a la distance géographique aussi. Reddy vit à Lecce. Donc on a passé quand même beaucoup de temps là-bas, le studio était pas loin. Ça c'était très chouette, moi j'ai découvert cette région d'Italie qui est quand même pas désagréable.
Il y a pire comme lieu de travail.
À tout point de vue, oui, vraiment. Moi j'étais à l'époque installé à Athènes parce que j'ai un fils qui vit là-bas. Entre-temps je suis revenu ancien Marseillais, là je suis à 1h30 de Marseille dans la Pampa, perdu dans un petit village. Et Rami, lui, est à Sydney. Voilà.
Un petit peu plus loin.
Mais bon, on se retrouve pour des sessions de travail. Et ce qui est vraiment particulier à ce projet, c'est que la musique se crée à trois. Chacun avec notre bagage musical, notre histoire. Et donc voilà, vous imaginez un peu comment ça peut se passer. Il y en a un qui lance une idée, l'autre, ça ouvre une route, un chemin, on se met dedans, on peut proposer autre chose, il y a un autre chemin qui part, et on se laisse porter comme ça. Donc c'est hyper agréable, c'est né de l'improvisation et de la liberté, on va dire.
Est-ce que vous aviez au départ des objectifs de se dire, bah, tiens, on fait 2 ans, 3 ans, on va tourner des concerts, et après on fera peut-être un deuxième album? Est-ce que ça, vous l'aviez en tête dès le départ ou...
Honnêtement, non. En ce qui me concerne, dans tous les cas, bah c'était un luxe en fait de pouvoir se dire, allez, on essaye quelque chose. Si ça prend, tant mieux. Et puis, il n'y avait pas d'obligation de forcément avoir un résultat magnifique. Et on s'est pris au jeu. Je pense qu'on prend du plaisir à partager des moments de musique et des moments de vie ensemble. On apprend à se connaître. Et naturellement, on a envie de continuer pour l'instant, en tout cas. Et donc, on a lancé un deuxième album. Il y a quelques morceaux qui sont en chantier.
Donc ça sortirait quand?
Bonne question. Je ne sais pas encore, parce qu'on va compléter ces enregistrements au mois de septembre prochain. Donc je dirais courant 27. Et ce qui est drôle, c'est que là, en ce moment, où je ne sais pas quand ça sort exactement, c'est en train de sortir là, ce qui va être le deuxième album, mais en fait qui est rétrospectivement la première rencontre qu'on a faite avant le Covid, où on avait quand même enregistré des choses, ils ont gardé des choses, et c'est une musique qui a servi pour une exposition privée de Harmanie, et ils sortent ça bientôt. Mais en fait, ça a été enregistré avant l'album que vous avez entendu.
Et alors, est-ce qu'après, vous allez revenir quelques fois en France pour qu'on puisse vous revoir?
Oui, on a un concert de prévu dans un théâtre que j'aime beaucoup pour plein de raisons, qui est le théâtre des Bouches du Nord à Paris, qui est anciennement le théâtre de Peter Brook. Et mon père, qui est musicien avec qui j'ai appris, avait participé à cette pièce épique qui était le Mahabharata de Peter Brook. Et donc j'ai des souvenirs de... J'avais pas 10 ans, je crois, à traîner dans ce théâtre qui est vraiment très, très beau. Donc on a une date, j'ai pas la date en tête parce que je suis très mauvais.
On ira rechercher.
Mais il y a une date au Bouffe du Nord et il y a d'autres concerts. On sera au Sud à Arles cet été. On sera au Cosmo Jazz à Chamonix, on va jouer. C'est des concerts en altitude, c'est très beau.
Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme émotion dans votre musique?
Alors moi, ce qui me plaît dans cet échange avec Reddy et Rami, c'est qu'on laisse le temps à la musique de se développer, de se faire. C'est pas démonstratif. Le silence a autant d'importance que les notes. Il y a quelque chose qui est assez apaisant pour moi. Dans la tranquillité, voilà, on n'est pas dans un truc de tension. C'est vraiment laisser le temps à la musique de s'installer. C'est pour ça qu'on a sur scène, en tous les cas, des formats, des morceaux qui vont facilement à 10 minutes ou plus. Voilà, dans une période où tout est resserré un petit peu, y compris dans la musique, hein, on fait des formats de 4 minutes. Et il y a voilà, une espèce de force tranquille comme ça qui me touche.
Et là, en concert, vous ne faites pas forcément pas exactement comme le disque.
Effectivement, parce que c'est aussi dans cette formule de trio, c'est une formule où, je ne sais pas comment dire, il y a le... Alors c'est déjà un groupe pour moi, mais c'est comme quand on discute avec des gens, à trois, ça peut être assez fluide. Si on se met à discuter à huit, c'est plus compliqué. Et du coup, ça c'est chouette parce qu'on est dans l'interaction et les tempos peuvent changer selon le moment et on s'écoute. Je crois que voilà, il y a vraiment une écoute et une confiance.
Et pourquoi l'antidote?
Alors ça, c'était une idée de Titi Santini, donc le producteur dont je parlais. On n'a pas la prétention d'apporter un antidote à ce monde qui se rétrécit de plus en plus, mais en tous les cas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la musique, et pas que la musique, d'ailleurs toutes les formes d'art, c'est un espace qui relie, qui... Enfin, pour moi, c'est une sorte de méditation de jouer. On se met dans un espèce d'écrin. Ouais, ça fait partie des choses qui font du bien par les temps qui courent.
Oui, il y a une forme quand même, c'est vrai, dans votre musique de trance un peu.
De trance, une forme de simplicité en tous les cas. Il n'y a pas 150 parties avec des ponts, c'est plutôt des espèces de ritournelles qui évolutives comme ça, ou avec des apports de chacun et qui peuvent rappeler un peu ce sentiment de transe. Ouais.
Et c'est quoi vos influences, tiens, à vous?
Ouh là là, elles sont vraiment multiples. Moi, j'ai grandi en Provence avec un papa iranien et une maman française, et mon papa m'a transmis la musique en fait. C'est avec lui que j'ai appris les percussions. Et donc tout jeune, j'ai beaucoup écouté de musique classique iranienne. Et même, je me souviens très bien qu'à l'époque, c'était mon rêve, c'était de faire uniquement cette musique-là. J'étais un peu obstiné par cette musique-là. Et plus tard, la musique indienne, le jazz, des musiques traditionnelles de différentes régions. Mais toute forme de musique, dès lors qu'elle me touche, en fait, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Ça peut venir de toute provenance. C'est bienvenu.
Pour vous, c'était important d'être sur un festival comme Musique Métisse?
J'étais jamais venu. Et j'en entends parler depuis longtemps. J'ai appris aujourd'hui que c'était là. Ils fêtaient leur 50 ans. C'est quand même assez incroyable pour un festival. Donc, longue vie à festival qui a l'air vraiment très chouette. Là, on a terminé notre concert. On va profiter un peu des concerts qui suivent là.
Merci.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Merci à Bijan Chemirani. Merci à l'Antidote. Vous pourrez les retrouver encore ce mois-ci, le 17 juillet, notamment à Arles, ou le 25 juillet à Marciac pour Jazz in Marciac. En septembre aussi à Montpellier au Festival Arabesque, le 12, et le 27 octobre 2026 à Paris au Bouffe du Nord. Je vous conseille vraiment d'aller écouter leur production. Ce sont des musiciens exceptionnels. Et pour les avoir vus en concert au festival Musique Métis, je peux vous assurer que j'ai passé un moment délicieux. De voir des musiciens virtuoses comme ces trois musiciens, c'était absolument magique. équipes. Merci à tous ceux qui ont pu faciliter les entretiens et le fait d'avoir pu les voir en concert au Festival Musique Métisse. C'était vraiment un super moment. Je remercie aussi Carole Chenet pour la première partie de cette émission. Je vous rappelle aussi son exposition « Invisible » qui a lieu à l'Hôtel de Ville de La Rochelle jusqu'au 29 août prochain. N'hésitez pas, c'est gratuit. C'est un travail magnifique et inclusif que je vais m'empresser aussi d'aller voir dès que possible cet été. Je remercie Virginie pour la programmation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de En Vrac. Vous retrouverez une seconde partie qui a été enregistrée au Festival Musique Métisse à Angoulême. Un super festival que je vous conseille évidemment. Et vous retrouverez sur le mois d'août une super interview de HK ainsi que d'une chorale sud-africaine, Tanda Koya. Et je vous laisse en compagnie de l'Antidote. Ça s'appelle Quiet Pulse. Et c'est tout de suite sur votre radio préférée. À bientôt sur les ondes de D4B. We'll be right back.
Crois-tu qu'il faille sourire comme la chaleur se rapproche? Hey. Crois-tu qu'il faille frémir?